je pense qu'il y a au fond de l'amour. Je pense qu'il y a un regret d'unité, il y a un regret d'un monde perdu.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude, amour, sexe et enfance. Tout de suite avec Pascal Quignard, bonne écoute.
La première.
Et Dieu dans tout ça.
Pascal Claude.
Il y a dans chacun de nous un mystérieux fond d'ingratitude à l'égard de la scène qui est à notre origine. Le coït est une étrange danse brusque, chevauchante, accrue, saccadée, hétérosexuée qui nous figura. Pourquoi haïssons-nous ce qui nous figura? Pourquoi a-t-il haut le cœur? Pourquoi la vision du coït est-elle toujours une mauvaise rencontre quand elle prend par surprise notre regard? Alors que nous en sommes d'abord, initialement, les tout petits bourgeons pris de glu au fond de la pénombre. Puis les fleurs dont les pétales se déplient, s'ouvrent, et se sculpte dans la lumière, puis les fruits qui gonflent, se colorent, mûrissent, se fendillent, puis les semences qui se dispersent dans l'air et sèment dans le monde, puis les feuilles d'automne qui se froissent, se recroquevillent, se détachent, tombent, s'effritent, s'éteignent, s'émiettent, disparaissent, s'oublient. C'est ce qu'écrit notre invité dans son nouveau livre. Pascal Quignard est à nos côtés. Comment prendre la bonne décision? La question se pose cette semaine dans notre grand dictionnaire. Rendez-vous tout à l'heure avec Martin Legros du Philosophie Magazine. Soyez les bienvenus dans Et Dieu dans tout ça. Pascal Quignard, vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont le célèbre Tous les matins du monde, adapté au cinéma. Vous avez reçu le prestigieux prix Goncourt en 2002. Et tout récemment, en août 2023, a été publié le tome 11 de votre cycle Dernier Royaume, un livre intitulé Les heures heureuses. Et en cette rentrée de janvier, vous nous proposez vos compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour. J'ai préparé toute une série de questions pour alimenter notre discussion et j'ai été étonné de lire cette phrase dans votre nouveau texte « Questionner, c'est interroger sous la torture ». Alors, je vous dis tout de suite que c'est pas comme ça que j'envisage notre conversation, mais répondre à des questions, ça a pu ressembler à une forme de torture pour vous, Pascal Quignard ?
Ah oui, je pense quand on est tout petit, je pense que le fait d'être soumis comme à l'obligation de répondre, c'est surtout ça, est une...
Répond Pascal.
Voilà, devoir répondre, devoir se justifier, devoir quand on est tout petit, c'est quelque chose que... Vous savez, il y a ce merveilleux mouvement des enfants autistes qui, devant cette injonction, reculent et veulent retourner dans le monde ancien où ils étaient à faune complètement. Ils ne supportent pas d'être mis en cause, de devoir, comment dire, se constituer comme une sorte de victime.
Vous avez fait partie de ces enfants-là ?
Je peux pas prétendre, mais il est possible qu'une part du bonheur que j'éprouve actuellement est de m'être évadé peut-être de cette peur de l'autre.
Nous avons le même prénom, Pascal Quignard, et vous écrivez page 50. Il y a un noyau indicible dans la vie de chacun, noyau qui prend souvent la forme d'un prénom. Pascal, c'est donc notre noyau mystérieux, notre énigme, Pascal Quignard ?
Écoutez, Pascal, c'est pas vraiment un prénom, c'est plutôt, comment dire, un adjectif. Et qui, comment,
un adjectif.
Oui, c'est le Triduum Pascalis, enfin dans le rite chrétien, est très précis, sur les trois jours où le Dieu meurt.
Je suis né le jour de Pâques.
Eh bien, moi aussi, sans aucune imagination de mes parents.
Dis souvent la même chose.
Et mon petit frère, qui est, comment dire, est mort maintenant et qui était violoncelliste, s'appelle Noël parce qu'il est né le jour de Noël. Mais donc, nos prénoms, cela dit, ils nous enjoignent, eux aussi, comme les questions enjoignent, une certaine mélancolie. Vous vous souvenez forcément des statues revêtues de violet, du silence des ténèbres, de magnifiques musiques sur les lamentations de Jérusalem détruite dans la Bible. Enfin, toutes ces choses qui ont entouré notre prénom traînent avec nous, nous les traînons avec nous, elles résonnent en nous. Tous les prénoms, dans ce cas-là, engendrent des légendes qui aussi, comment dire, font de nous du discours et pas du tout cette profondeur non subjective qui est vraiment ce qui est le plus profond en nous.
Vous êtes né le 23 avril 1948 en Normandie, mais je crois que vous préféreriez 23/7/1947 comme combinaison de chiffres pour dater votre origine, c'est-à-dire 9 mois plus tôt.
Ah oui, mais ça, chacun d'entre nous, je pense, Je pense. Non, j'ai rencontré des personnes qui se refusaient à imaginer la scène dont ils étaient le fruit.
Pas vous ?
Mais moi, si, je sais très bien le mois d'août. J'ai cherché dans les photos de famille où ça pouvait être. Je pense que c'est, comment dire, dans les Ardennes, à Chaux, dans la petite boucle de Givet où mes parents étaient en vacances et dont mon grand-père était originaire. Et je suis toujours ému de comment dire, lorsque je peux inscrire ma propre biographie dans...
Origine ?
Oui. Oui, par exemple, je vais faire quelque chose sur les dernières musiques de Gabriel Fauré. Et son dernier amour s'est porté sur Marguerite Hasselmans. Et elle meurt en septembre 1947. Et aussitôt, je me suis dit, bon, j'étais conçu. C'est un narcissisme étrange, mais qui lie en effet à la scène que je ne verrai jamais. Et ce que je trouve très, très beau, et très, c'est pour ça que je ne comprends pas en effet qu'on puisse avoir tant de gêne à l'égard de cette scène, c'est que nous venons d'autres, nous ne venons pas de nous-mêmes. Le fait que je ne vienne pas de moi, ça m'apaise.
Mais ce malaise face à cette scène, il est peut-être lié au fait, et c'est une hypothèse que vous émettez dans votre dernier texte, à la découverte précoce de la sexualité.
Ou c'est cela, ou c'est le fait que nous sommes le seul animal à faire le lien entre le plaisir et la naissance. Nous sommes le seul animal à calculer. C'est vrai que nos chats, c'est vrai que les oiseaux, que le merle du jardin ne calculent pas, comment dire, au travers de lui-même d'où il est originaire. Il y a aussi peut-être le fait que le langage est quelque chose d'extraordinairement neutralisant et puritain, et qui fait que faire passer cette scène, qui n'est sans doute belle que silencieuse dans les plus belles peintures du Titien ou d'autres, les faire passer à l'état de langage, devient assez vite dégoûtant.
Alors, parlons-en de la parole, parce que vous insistez dans plusieurs de vos livres pour signaler que nous naissons pas en parlant, nous apprenons à parler. Pourquoi est-il nécessaire de se rappeler ça, que nous avons d'abord été des sans-paroles, Pascal Quignard ?
Ah, alors là, c'est pour moi une notion très importante, parce que dans le dictionnaire, il est dit que nous appartenons au langage de l'humanité. Et précisément, ceux qui le refusent, il y en a beaucoup, dont les autistes dont je parlais, moi je prétends qu'ils appartiennent à l'humanité, complètement. Et qu'il y a même des choix par rapport à cette attitude, de fait, soit, comment dire, on accepte d'être l'otage d'une langue nationale, du désir de la mère, de la famille, d'entrer dans un jeu communautaire, soit on a parfaitement le droit aussi de s'y refuser, et dès l'origine de l'humanité, avant toute spécialisation, comment dire, de métier, il y a eu aussitôt ces chamans, ces êtres un tout petit peu fous, anormaux, qui étaient choisis soit pour être des prêtres, soit pour être des sacrifiés, pour renforcer la solidité du groupe. Et ce mouvement-là, si vous voulez, je ne crois pas que l'espèce, elle voudrait croire qu'elle est faite pour la société. Mais je ne crois pas que la société soit une valeur. Je pense que comme chez les... Non, comme chez les cerfs.
Faire société, ça ne signifie rien pour vous.
Non, je pense vraiment qu'il y a ce choix qui doit être fait. Certains le veulent, d'autres ont le droit de ne pas le vouloir, comme les moines, comme les extatiques. De même que dans la harde de cerfs, il y a des cerfs qui veulent être solitaires. De même que dans la compagnie de sangliers, il y a des sangliers qui deviennent solitaires. C'est même de là d'où vient le mot de solitaire.
Nous sommes des individualistes alors.
Il y a un double désir, un désir d'intégration chez certains, et un désir un refus de l'intégration chez d'autres.
On a démarré nos vies sans la parole, sans parler, et même avant cela, on aurait peut-être été des sortes de poissons, Pascal Quignard.
Oui, c'est l'œuvre admirable de Sándor Ferenczi, cet Hongrois qui a essayé d'approfondir la théorie de son ami Freud, en la plongeant dans la naissance de la vie au fond des eaux, au fond des mers, dans ce livre magnifique qui s'appelle Thalassa. Et alors il y a une idée que je trouve tout à fait extraordinaire dans l'œuvre de Ferenczi et qui persiste, qui pour moi est une énigme. Vous comprenez, ce livre rassemble plus des... Je ne cherche pas des solutions, je cherche à
vous creuser des questions.
Voilà, je creuse quelque chose aussi passionnant qu'est la sexualité, qui est si belle chez les fleurs, qui est si belle dans les arbres, qui est si belle dans nos vies aussi. Et Ferenczi estimait que cette naissance de la vie au fond de l'eau, que le fait que nous soyons nous-mêmes, en effet, des poissons pendant 8-9 mois, qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais qui n'était pas forcément la vie atmosphérique. Je trouve ça très, très, très étrange. Nous aurions été, comment dire, poussés par quelque chose qui aurait pu aller ailleurs. Et je pense que...
Et nous sommes donc des naufragés ?
Oui, en tout cas un peu désorientés, mais ça c'est pas forcément faux, très désorientés. Naufragés, ça c'est un thème que je montre combien il est particulièrement romain. C'est vraiment ça, le monde romain qui estime que la naissance est un naufrage en effet, qu'on arrive in luminis horas, dans la lumière, dans l'orée de lumière, qu'on arrive dans le souffle comme ça, mais comme Ulysse sur la plage des Phéaciens, tout est bourriffé dans son buisson et qui a honte de son propre corps déjà auprès de la princesse.
L'enfance est d'abord une sorte d'estran. La mère se retire et en se retirant dévoile l'air inconsolable où s'étend la perte, où s'élève le fantôme du premier royaume. Nous sommes donc, Pascal Quignard, en quelque sorte inconsolables dès les premiers temps de notre vie.
On a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose. Cela dit, le mot est inconsolable. Je ne dis pas que je n'ai pas écrit ce que vous dites, mais l'estran, c'est aussi quelque chose d'extrêmement agréable. C'est quelque chose que, quand on aime être au bord de la mer, on aime aussi, comment dire, suivre l'horaire des marées pour pouvoir être les premiers à mettre les pieds dans la berge humide et de voir aussi ce qui a pu, comment dire, les objets, les eaux de sèche, les trésors qu'a pu ramener la mer en se retirant. Mais le côté inconsolable, c'est plutôt le monde perdu. On éprouve qu'un monde a été perdu. Je pense qu'il y a au fond, pas de la sexualité, je pense qu'il y a au fond de l'amour. Je pense qu'il y a un regret d'unité, il y a un regret d'un monde perdu, qu'on ne peut pas assouvir complètement, mais qui fait que quelque chose cherche à refusionner avec l'état liquide. Et moi, par exemple, j'ai toujours besoin de vivre auprès d'une rivière. C'est une des choses dont je souffre précisément à Bruxelles ou à Madrid ou à certaines villes, lorsque les rivières ont été annulées, ont été enterrées et qu'on a des noms de ports sur les places alors qu'on ne voit pas d'eau. C'est une souffrance pour moi.
On va écouter maintenant ceci. Voilà le premier cri que pousse un enfant à la naissance. Le cri qu'il pousse est un cri qui pleure, écrivez-vous. Souffle déjà endeuillé, chant déjà nostalgique. Qu'est-ce qu'un enfant ? Le ressac de la mort dans l'expérience même de la naissance. Et vous ajoutez, d'expérience, je sais que les enfants, dans le noyau de leur enfance, ont une connaissance de la mort.
Ah oui, c'est très antiphilosophique cette notion-là, parce que les philosophes, de façon justifiée, disent que c'est l'expérience dont on n'aura pas la connaissance, puisqu'il faudrait être mort pour... Or, je pense que c'est faux. C'est l'expérience dont on a la connaissance. Je pense que Freud le pensait aussi.
Mais qu'est-ce que vous en savez ?
Ça n'est pas un cri. Oui, mais comprenez, c'est une suffocation. Ce que j'en sais, moi, je n'en ai pas le souvenir, je n'avais même pas le langage pour pouvoir l'accueillir. Mais... Vous avez entendu ce cri, ça n'est même pas un cri d'appel, c'est nous-mêmes, comment dire, qui supposons de la souffrance pour l'éprouver comme un cri d'appel. La mère en est bouleversée et accourt vers l'enfant quand elle l'entend crier, alors que c'est la suffocation de l'air qui arrive dans les poumons. C'est ce qu'on appelle en grec psyché, c'est l'âme, c'est anima qui anime le corps soudain. Et c'est c'est un autre corps qui est déchiré là. C'est une déchirure. Alors, Freud parle de l'iflossigkeit, le fait d'être sans secours, sans aide. Nous mourrions si personne ne venait appeler par ce cri de la naissance. Nous serions morts. Et je pense qu'il y a là quelque chose, en effet, dans de la mort, qui peut se prouver. Et je l'ai ressenti, puisque je suis un anorexique d'enfance, un nourrisson anorexique. Ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui sait comment dire que, oh, si ma naissance pose tellement de problèmes à ma mère, je peux m'effacer pour qu'elle soit.
Et vous alliez dans le noir aussi.
Voilà. Et je mangeais dans le noir. C'est quelque chose, c'est une substitution qui se fait. Vous voyez, il y a une sorte d'extinction qui peut se faire. J'ai un ami qui, tiens, à chaque fois, je lui fais répéter parce que je n'arrive pas à y croire. C'est à cause de vous que je pense tout à coup à François Farge, qui est un obstétricien très, très savant, etc. Et qui dit qu'il y a des suicides de fœtus. Appuyant sur ce petit tube qui leur donne la vie, parfois ils veulent en accélérer le flux tellement il leur donne de plaisir, et parfois ils l'interrompent et ils meurent. Alors je lui dis, mais tu peux vraiment parler de suicide? Il me dit, oui, je crois qu'il faut parler de suicide. Ça me trouble énormément.
Oui, évidemment, c'est très troublant. Ouais. Dans votre nouveau livre, vous vous arrêtez aussi sur le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie, qui est pour vous le plus grand penseur de la politique qui existait. On va écouter un court extrait de son texte majeur.
Soyez résolus à ne plus servir. Et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.
C'est un extrait que vous aimez tout particulièrement, Pascal Quignard, et vous nous expliquez dans votre livre que si nous sommes si obéissants, nous les êtres humains, c'est pas sans lien avec l'apprentissage de la langue. On y revient.
Ah oui, et même, comment dire, le mot français de obéir, obaudancia, ça veut dire obéir, ça veut dire entendre. Il y a, avant même la sensorialité, dans l'embryogenèse, quelque chose qui fait que le sonore, que l'audition est la première émotion. Donc l'émotion et l'audition se trouvent liées. Ce qu'éprouve la mère se met à rebondir sur le corps du fœtus et à lui donner l'intonation ou la douleur ou le plaisir. Si bien que nous sommes voués à une emprise, à une obéissance qui est pré-linguistique. Ensuite, avec la langue, nous apprenons et nous obéissons à l'apprendre. Et vous comprenez pourquoi on peut refuser d'apprendre, refuser d'obéir. Vous comprenez pourquoi j'ai ce thème un petit peu du monde farouche des enfants autistiques ou de ceux qui peuvent résister. Et pourquoi j'ai autant d'admiration pour ceux, les politiques, mais surtout, comment dire, des choses aussi, des inventions aussi superbes que les abbayes, les chartreuses, les monastères, tous ceux qui ont fui le monde, fui la politique, qui en entendant parler de cette répétition, de ce ratotage épouvantable de cruauté et de guerre, veulent s'évader de ce monde-là.
Ne pas ébranler le pouvoir, mais ne plus le soutenir. C'est une pensée que vous suivez à la lettre, concrètement, dans votre vie de tous les jours, Pascal Quignard ?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose dans cette idée que la Boétie a, que même la révolte, c'est comme une soumission au surmoi, qui me paraît très vrai. Il ne faut même pas songer à se révolter. Il faut quitter, il faut partir, il faut fuir. C'est un éloge tout à fait et paradoxal que de dire qu'il faille fuir. Mais je pense que c'est ça. Le bouddhisme a profondément été ça aussi.
Écrire, c'est fuir ?
Écrire, en tout cas, c'est fuir le langage oral. Ça, c'est sûr, à toute allure. C'est fuir, oui, c'est fuir, parce qu'on écrit seul dans son coin. Fuir, même si vous voulez, pour vous faire une confidence.
Oui, allez-y, Pascal.
Non, je ne dirais même pas que c'est la lecture qui m'a appelé. Je ne dirais même pas que c'est le fait d'écrire qui inspire mes jours. Je pense que j'ai découvert, quand j'étais petit, que c'était là une posture qui pouvait justifier qu'on soit seul. Aux yeux de ma famille, ça paraissait bien d'avoir un livre entre les mains.
C'est un alibi, en fait.
Je crois que c'est resté en moi un alibi de la fuite.
Est-ce que c'est cette servitude volontaire qui mène à la guerre ? Je pose la question à quelqu'un qui est né juste après la guerre, qui a vu des paysages détruits.
Et qui a été élevé par quelqu'un qui revenait du camp de Dachau. Je ne sais pas si c'est là. Je ne sais pas très bien. C'est vraiment quelque chose. Je sais très bien que c'est la passion humaine par excellence que la guerre. Mais je n'arrive pas à la comprendre. C'est quand même, lorsque l'on voit ce qui se renouvelle de nos jours, il est quand même très difficile de dire « il y a une raison à tout ça ». Parce que s'il y avait une raison, on pourrait peut-être l'ôter, cette raison. Et non, ça revient avec une passion. Et il y a quelque chose... Alors là, on parlait de fuite. Il y a une chose, ça n'est que très latéral, ce que je vais dire, mais le fait, comment dire, de l'interdiction de la désertion est quelque chose que je trouve d'une immoralité totale.
Et vous dites aussi, puisque vous êtes né et que vous avez plutôt passé votre enfance dans le port du Havre, entièrement détruit, que vivre dans ces ruines vous a mené à une forme de deuil.
C'est peut-être excessif de dire ça, je le dis, c'est peut-être excessif parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de disparu. Mais on ne l'a jamais vu debout.
Bah oui, c'est ça.
Donc on ne peut pas non plus dire qu'on est endeuillé, mais marcher dans, avoir ses fenêtres ouvertes sur le vide, voir ces bouts de tapisserie que le vent échevelle, faire la messe dans les décombres, c'est très impressionnant.
Quitter la parole, quitter la langue comme vous aimez le faire, ça permet de rejoindre quoi, Pascal Quignard ?
Une expressivité souveraine. Mon maître en philosophie, qui s'appelait Emmanuel Levinas, parlait de cela, de l'extériorisation pure. Et qu'est-ce que c'est que l'extériorisation ? C'est la nature. C'est cette invention que la vie a faite sur la surface de la Terre, de faire, surgir des arbres, cette extériorité, monter les corps, ériger le désir. C'est tout ce mouvement des fleurs qui s'élèvent, ces sexes qui s'ouvrent vers le soleil, qui vont têter le soleil, le rayon de soleil qui tombe de l'astre, de l'étoile qui explose sans cesse. Je pense que ce mouvement-là, c'est un mouvement qui ne parle pas, Dieu sait qu'il ne parle pas. C'est la plus belle chose qui soit sûre. Je trouve que la nature est sublime.
Se taire, ça permet de rejoindre ça, de sentir autrement le monde ?
Vous voyez, il y a, si l'on prend par exemple la magnifique tradition philosophique, il y a la pensée. Bien. Ensuite, il y a l'interrogation, il y a quelque chose qui est vraiment qui devient beaucoup plus profonde, qui est la méditation. Et les moines disent tous, les ascètes disent tous, qu'il y a enfin le stade où on quitte le langage, c'est la contemplation.
La langue que nous utilisons signifie tellement plus et sent tellement peu. Plutarque a écrit à Rome, à la fin de l'Antiquité romaine, cette phrase magnifique, « Le don le plus haut auquel un homme peut aspirer dans la vie est l'extase ». C'est quoi l'extase ?
Et il écrivait en grec en plus. Il écrivait à Rome, mais il écrivait en grec plus tard. Et extasis, ce qui sort de stasis, c'est l'état. On sort de l'état où on est. Et c'est ça l'extase.
En côtoyant une fleur ? En côtoyant un corps ?
En côtoyant un corps. Le corps de l'autre, c'est vraiment pas le sien. Et dans ce cas-là, vraiment, en effet, il y a une extase érotique devant la dénudation et le corps de l'autre.
Et Dieu dans tout ça.
Pascal Claude.
Je privilégie ces mots dont l'étymologie est restée introuvable dans l'histoire des langues. C'est ce qu'écrit notre invité, l'écrivain Pascal Quignard, qui signe complément à la théorie sexuelle et sur l'amour. Et parmi les mots dont l'origine est inconnue, il y a Eros. Quel sens, du coup, peut-on attribuer à Eros, Pascal Quignard ?
Ah, moi, j'aime énormément. Je ne sais pas pourquoi, en effet, j'aime énormément les mots. J'aime beaucoup l'étymologie. C'est-à-dire croire qu'on peut atteindre l'origine, c'est une rêverie. C'est pas sérieux, c'est jamais sérieux.
Aller vers le début, aller vers le commencement.
Voilà, aller vers le début. Alors, il y a des mots, en effet, dont on ne peut absolument pas... les mots du plaisir sont faciles à deviner. Mais le mot Eros, le mot Eramai, qui veut dire le désir, est un mot dont on ne sait absolument pas d'où il peut provenir. Le mot littérature aussi.
Oui.
Je pourrais presque faire un petit trésor des mots dont l'origine est introuvable. Il resterait comme ça, des océans en nous, des abîmes de perplexité. Vous savez que c'est agréable. La perplexité, c'est quelque chose, en effet, j'emploie ce mot-là. Mais je trouve que c'est une attitude pas du tout angoissante. Je suis perplexe, je ne sais pas du tout ça. Qu'est-ce que veut dire ce mot ? Qu'est-ce que veut dire le désir ? Je n'en sais rien.
On va parler à présent des liens entre la langue, l'eau et l'amour. Et pour l'écrivain Yannick Enel, la langue, elle est humide. Mais oui, je crois. C'est ce qui se passe dans l'amour, au fond. C'est ce qui se passe dans la peinture,
la langue, la c'est l'amour. L'amour, c'est la langue.
Ouais, j'en suis arrivé à un point où les deux, pour moi, les deux coïncident. Bah, l'amour, ça ne va pas sans dire. L'élément même des phrases que j'essaye d'écrire rejoint un point, alors j'appelle ça une fontaine, parce que c'est ce qui comble et désaltère, mais c'est l'autre nom de l'amour, voilà. L'amour ne va pas sans dire, dit Yannick Enel. Que réplique Pascal Quignard ?
Je suis un petit peu embêté parce que j'aime bien Yannick Enel, mais là je ne peux pas être d'accord.
Ouais, je le savais, vous ne savez pas d'accord.
Mais je pense qu'il y a derrière ce qu'il dit une altération, en effet, altérée au sens de avoir soif, qui caractérise la vie de Yannick, qui a toujours pensé que l'ivresse était quelque chose qui le conduisait. Mais je pense que l'amour va sans dire. Et que soit le langage devient en effet précieux, compliqué, délicat, et essaye de sublimer l'amour en faisant une charité, une bonté.
Vous détestez ça apparemment, la sublimation de l'amour.
Je n'y crois pas, oui. Soit c'est la vulgarité la plus grande qui emporte, c'est la haine du corps, c'est la haine, comment dire, puritaine du corps, et c'est les mots les plus grossiers qui arrivent. Ça aussi, je ne crois pas que ça concerne l'amour. Non.
On n'en parle pas ?
Je pense que si l'on fait l'amour, on n'en parle pas, non.
Et si on aime...
Si on aime parler...
Non, si on aime quelqu'un,
oui.
On ne l'en parle pas.
Si vous voulez vous compliquer la vie et diminuer votre passion, et vous ne faire pas...
Grandes lettres d'amour, les grands poèmes d'amour...
Vous me faites penser à Madame de Villedieu. Madame de Villedieu, qui a écrit des contes, d'ailleurs, qui est du XVIIe siècle, et qui disait que dès que l'amant se met à justifier l'amour, à parler de l'amour, etc., on peut déjà s'en aller, ça veut dire qu'il ne vous aime pas.
Ah bon, on écrit des lettres d'amour parce qu'on n'aime pas.
Et alors une autre, Madame Riccoboni, pardonnez-moi, c'est ma bibliothèque qui sort de ma tête dans ce cas-là, dit que lorsqu'on veut faire une belle lettre d'amour, il faut mettre des points de suspension partout. Parce que sans ça, elle ne paraîtra pas authentique. Si le langage est développé, il ne paraîtrait pas authentique.
Vous avez écrit des lettres d'amour,
vous ? Ben, jamais, je crois. Jamais.
Vous écrivez que l'amour est à la fois insubjectif...
Oui.
Et inobjectif.
Oui.
Explication, s'il vous plaît.
Le thème inobjectif, c'est Freud. Et ça me paraît là. C'est pour ça que je dis que je n'écris que des compléments à la théorie sexuelle, tellement je trouve la pensée de Freud remarquable. Et toutes celles qui ont suivi me paraissent pauvres par rapport à la sienne. Freud disait que l'amour n'a pas d'objet. Que de même que le petit humain arrivait avant que l'instinct ait pu se faire, par sa prématuration, il n'avait pas d'instinct sexuel, et qu'il se portait sur n'importe quel objet. De même, puisqu'il l'a perdu en naissant sa mère, s'il y avait un objet, il serait perdu. Et dans ce cas-là, l'amour est sans objet. Toute personne qui donne un objet à l'amour, un contenu à l'amour, il faut s'en méfier, il ment.
Mais il y a un sujet quand même, il y a l'être aimé.
Alors voilà, souvenez-vous. Vous avez commencé par parler de Pascal, puisque vous appelez Pascal, et de Pascal, puisque je m'appelle Pascal. Bien. Et nous sommes convenus de dire que ces adjectifs ne nous concernaient pas, qu'ils marquaient la date de notre apparition, et que nous n'avons pas à appuyer notre identité sur le mot Pascal, ni sur le prénom, ni sur le nom que nous pouvons avoir. Ce ne sont pas non plus là où nous serions sujets. La subjectivité, c'est-à-dire le fait de pouvoir prendre la parole, c'est ça, ego, c'est celui qui prend la parole, n'est que le fait de prendre la parole. Si vous retirez cette position, comment dire, soit de la légende de votre nom, de la pseudo-identité dont vous seriez revêtu.
Retirez le jeu, retirez l'ego.
Vous retirez l'ego. Là, vous arrivez à quelque chose de l'ordre de la proprioception. C'est-à-dire le fait de sentir son corps, le fait de la sensorialité profonde de ce que vous êtes. Là, c'est insubjectif, mais c'est profondément le self profond, si vous voulez. Et ça, c'est un autre thème. C'est le fait que ce n'est pas, comment dire, l'identité sociale qui peut se revendiquer comme amoureuse.
Et l'amour, il est là ?
Il est dans le corps lui-même, il est dans le vrai trésor. Le vrai trésor que nous avons, ce n'est pas notre nom, ce n'est pas notre pseudo-subjectivité, c'est la sensation de notre corps.
C'est quoi un corps, Pascal Quignard ?
C'est ce qu'il sent. C'est vraiment ce qu'il sent. C'est éprouver, c'est l'épreuve.
Aimer, c'est demander à l'autre son âme sauvage, c'est héler son inconscient, c'est tirer à soi le fond de son monde. C'est ce que vous écrivez. En fait, c'est presque devenir un vampire avec la personne aimée, Pascal Quignard.
Ah là, avec le texte que vous citez, ça semblerait tout à fait. Alors, je ne crois absolument pas que ce soit une prédation. Mais faire surgir l'autre de l'autre comme l'autre de soi, je crois que oui, c'est la beauté de l'amour vient vers cette humilité-là, cette humilité corporelle souveraine.
Humilité.
Intimité, l'intimité par exemple, le mot intimité dit très très bien cela. C'est mieux que subjectivité, vous comprenez. Intimité, être l'intime de l'autre, c'est mieux que d'être le héros de l'autre.
On peut être l'intime dans l'amitié aussi.
Là, je crois qu'il est difficile de ne pas mettre le langage en amitié. L'amitié quand même passe par le langage. C'est se croire l'autre par le biais du langage. Il y a quand même quelque chose du corps qui s'éteint. Tandis que dans l'amour, le corps est là. Tandis que, vous voyez, je fais une différence.
La langue qui fait barrière avec le corps ?
La langue qui fait barrière avec le corps, dans l'amitié, oui, c'est vrai que les vrais amis le songent au monomotapa, comment dire, dans la magnifique fable de La Fontaine. Ce sont deux amis qui parlent et songent l'un à l'autre. Ah, j'ai senti que vous étiez mal, j'ai accouru. Et l'autre, oui, mais non, chacun pleure sur l'autre parce qu'il l'a entendu en rêve. Là, oui. Mais ils parlent, c'est un admirable fable, ils parlent entre eux, je t'aime. Qu'un ami est une douce... Bon, vous voyez, je ne vais pas réciter tout La Fontaine, mais l'amitié, c'est très 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 proche du langage.
On connaît le refrain, on dit que l'amour, ça ne dure pas. Et vous, vous dites, c'est faux, Pascal Quignard.
Ah oui, je le crois dans nos vies, je le crois dans l'histoire. Les histoires d'amour peuvent être tout à fait, comment dire, les plus belles, et j'en cite, les plus longues qui soient. Il n'y a pas du tout, comment dire, de durée à ce sentiment d'infini.
Quoi qu'en disent les sociétés, les mythes, les contes, les langues, les proverbes, le vrai amour est indestructible. Je me demande, moi, c'est quoi le vrai amour, alors, Pascal Quignard ?
Est-ce que vous voyez, c'est le retour ? C'est cette nostalgie. Cette nostalgie est indestructible. Qu'il y ait eu de l'un, refusionner à la fusion, se désir partir, le regret, le mot regret veut dire ça, regredior, je retourne. Le regret est indestructible. Vous comprenez ce que... Pour prendre une autre image, si j'avais à définir vraiment l'amour, vous voyez, comment dire, les fleuves vont à la mer. Et puis, à un moment, c'est la mer qui revient. Qui envahissait ce qu'on appelle le mascaré. La mer revient, devient réafflue, et réinvestit comme les saumons, réinvestit jusque là où ils ont frayé, là c'est le vrai amour, comme les tortues rejoignent l'île. Il y a un mouvement de regredior, il y a un moment de régression, il y a une nostalgie sublime de la fusion. Ce mascaré, j'appelle ça l'amour.
Oui, mais ça veut dire aussi l'amour qui contient des séparations, des disparitions.
Oui, mais alors là, pardonnez-moi, c'est là bien le caractère indestructible est vraiment présent, parce que ces veuvages-là, comment dire, font que ces souvenirs persistent à jamais.
C'est encore de l'amour, un souvenir ?
C'est un regret, et si l'amour est un regret, le regret appartient au regret.
Mais ça n'existe plus, ça n'est plus un corps.
Oh, hélas, 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 c'est une douleur. Ce regret est une douleur. Mais le mouvement qui pousse vers cette origine, de même que on peut, comment dire, haïr sa mère d'être séparé de vous, alors qu'on veut rejoindre cette fusion, quand on ne savions pas qu'elle était une mère.
Dans votre texte, vous abordez aussi la question très actuelle du consentement. Je vous cite « Je ne songe pas à défendre le viol qui se moque de toute défense. On peut l'interdire autant qu'on veut. Cela n'a jamais fait de mal au désir. Reste que c'est le consentement qui pose un problème. » Quel problème, Pascal Quignard ?
Comprenez-moi, je ne suis pas moraliste, je ne suis pas du tout pour le harcèlement ou pour le non-consentement. Mais le consentement pose un problème au plaisir lui-même. Vous ne pouvez pas être volontaire dans votre plaisir. Et alors là, c'est un thème. Alors, vous voyez, c'est typique de mon livre, que je laisse parfaitement ouvert. C'est une interrogation. Si nous pouvions contrôler absolument ce que nous pouvons ressentir, y compris, comment dire, la jouissance que nous pouvons ressentir, nous ne jouirions pas.
Mais le viol, ça n'est pas une question de désir, c'est une question de domination.
Alors, la domination, la guerre, tout ceci est absolument...
C'est parfois une arme de guerre.
Mais totalement. Mais je ne suis pas du tout en train de vous défendre ces horreurs que vous élevez. Je pose le problème de ce consentement et qui est un problème qui a été posé, vous savez, par qui? Par un évêque merveilleux, l'évêque de Cambrai, qui s'appelait Fénelon, qui a écrit sur l'état passif. Et c'est un texte. Toute l'œuvre de Fénelon, d'ailleurs, il a été persécuté par Bossuet parce qu'il est... Consentir complètement à Dieu, consentir complètement à l'autre, consentir complètement cet état qu'il appelait d'abandon est quelque chose qui, dans la musique par exemple, est absolument indispensable. Là, c'est la même chose. Si on voulait contrôler l'émotion et ne pas s'abandonner à la musique, on ne peut pas écouter la musique. Il faut s'effondrer en sanglots. Il faut s'effondrer en plaisir, il faut s'effondrer en sanglots, il faut s'effondrer dans la contemplation. Il y a là un abandon plus suprême que tout abandon, mais qui n'a rien à voir précisément avec la domination, la haine, la violence, le viol, des choses de cette nature.
Mais donc le consentement dans le cadre de l'amour...
pose un problème. Il faut accepter n'importe quoi. Non mais, je vous vois extraordinairement...
Je m'interroge en vous entendant.
Vous avez bien raison de vous interroger. C'est un très beau thème. C'est un thème très très compliqué.
Le crépuscule, désormais, est la seule censure que mes yeux reconnaissent. Un rivage depuis tant d'années a cerné mon errance. Il l'a même contenté. C'est la rivière et la nature qui l'ont creusé bien avant qu'il y ait eu des hommes. Le bourdonnement de l'eau qui passe est si doux à ceux qui s'en vont. C'est un tel chagrin de mourir. C'est ce que vous écrivez dès les premiers paragraphes de votre nouveau livre. Et ce sera ma dernière question. Ça vous chagrine de vous approcher tout doucement de la fin, vous qui faites l'éloge des débuts et de l'aube?
Ça ne me plonge pas dans l'allégresse. Mais ça n'est pas seulement un chagrin.
C'est un tel chagrin de mourir.
C'est aussi, comment dire, cette proximité, comment dire, d'une interruption, une sorte de vertige qui, d'ailleurs vous le voyez, qui précipite la plume, puisque j'écris davantage, qui donne plus d'intensité à la beauté du monde. Mais malheureusement, c'est vrai qu'en donnant de plus en plus d'intensité à ce qu'on va perdre, il y a un peu de chagrin en est. Mais ce chagrin est plus petit que l'incroyable densité et émerveillement de pouvoir profiter encore et de la mer et de la nature et de la beauté du soleil et de la vie.
Et de l'amour.
Et de l'amour.
Et du sexe.
Et l'âge aussi, peut-être, comment dire, en éloigne, mais pas, il n'en éloigne pas le regret une seconde.
Merci Pascal Quignard d'avoir été avec nous. Complément à la théorie sexuelle et sur l'amour, c'est votre nouveau livre. Merci beaucoup.
Merci.
Et Dieu dans tout ça?
Sur la première.
Notre grand dictionnaire est aujourd'hui la décision et plus précisément la bonne décision. Avec nous Martin Legros du Philosophie Magazine. Bonjour Martin.
Bonjour Pascal Claude.
Comment prendre la bonne décision? La question est à la une de votre numéro de février. Il existerait une méthode philosophique, Martin?
Alors, il n'existe certainement pas une seule méthode pour prendre de bonnes décisions, même si les philosophes rivalisent entre eux pour proposer la bonne solution. On peut distinguer, je dirais, deux grandes voies. Pour prendre une décision importante, qu'il s'agisse de savoir quel métier, quelles études vous voulez faire, quel est le bon choix en amour, si vous voulez vivre à la ville ou à la campagne, ou encore pour qui vous devez voter lors des prochaines élections, il existe deux grandes écoles. La première invite à suivre son désir, son aspiration la plus profonde, sans peser tous les arguments pour ou contre, à écouter la petite voix intérieure qui est en chacun de nous, bref, à suivre ce que Hobbes appelle le conatus, ou Bergson, notre élan vital. La seconde école, en matière de décision, prône une approche plus rationnelle. Il s'agirait d'évaluer les mérites de chaque option et de choisir celle qui vous donne la meilleure chance possible d'atteindre vos objectifs. Et surtout, comme dit Descartes, qui est un des représentants de cette école, de s'y tenir une fois que vous avez choisi dans une forêt une direction pour vous en sortir. Ne tournez pas tout le temps en rond. Tenez-vous à la décision que vous avez prise de manière la plus rationnelle. Laissez l'impulsion du désir décider ou s'en remettre à la froide raison. Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie? C'est celle que proposait Spinoza avec un critère supplémentaire, celui de la joie. Il la définissait comme une passion qui nous fait passer à une perfection plus grande, parce qu'elle surgit quand la raison se forge des idées adéquates. En me forgeant une idée adéquate de ma vocation de journaliste, par exemple, je sens vibrer en moi la joie, parce que l'âme a ainsi trouvé une manière d'accroître ma puissance d'agir. C'est un bon critère d'une décision. Même si vous n'êtes pas sûr qu'elle est économiquement optimale, demandez-vous d'abord si elle augmente votre joie et votre puissance d'agir.
L'une des recommandations à lire dans votre mensuel, Martin, c'est de se méfier de ses intuitions. Mais pourquoi ?
Oui, c'est l'idée que soutient Olivier Siboni, qui est spécialiste de ce qu'on appelle la théorie des biais, ces erreurs de jugement partagées, prévisibles, qui nous font prendre des mauvaises décisions. Ainsi, le biais que vous avez certainement, Pascal, le biais du planificateur, qui fait que vous sous-estimez systématiquement, par excès d'optimisme, le temps qu'il vous faudra pour monter un meuble IKEA.
Mais tellement.
Selon Siboni, il faut se méfier de l'intuition lorsqu'elle est déconnectée de l'expérience. Le garagiste qui connaît le moteur de votre voiture peut avoir de bonnes intuitions face à une panne quand il ouvre le capot. Vous pas, sans doute, Pascal. Parce que vous n'avez aucune expertise. Et c'est bien le problème pour les décisions importantes de notre vie. Nous sommes dans une situation inédite, privée d'expérience et donc d'expertise.
Une fois la décision prise, une fois le choix effectué, il ne nous reste plus qu'à assumer.
Oui, c'est la proposition de la philosophe Lauriane Paul, dont j'ai déjà parlé ici même, à propos des expériences transformatrices. Assumer, cela ne veut pas dire qu'il faut persévérer, même quand on a fait un mauvais choix, en se disant « c'est ce que j'ai choisi, je m'y tiens ». Non, pour savoir si un choix important nous convient vraiment, il faut accepter d'abord, dit Lauriane Paul, de se laisser transformer par ce choix. C'est le choix principal que l'on peut faire en situation d'incertitude. Quand on ne sait pas encore ce que l'on va devenir à cause des choix que l'on fait, décider si oui ou non, on accepte de prendre le risque de se laisser transformer par nos décisions. Se jeter à l'eau ou pas, voilà la décision fondamentale et on est les seuls à pouvoir faire ce choix.
Et plus de détails à lire dans le Philosophie Magazine de ce mois de février. Merci beaucoup Martin Legros.
Merci Pascal.
Bonne journée.
Bonne journée.
Et Dieu dans tout ça,
sur la première.